Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'émotion à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle au lendemain du crash d'un avion qui a fait 11 morts. Aucun passager n'a survécu, un drame aux circonstances très floues. On sera sur place dans un instant. Plus de 1000 décès supplémentaires depuis mercredi dernier. Premier bilan de la canicule, loin d'être définitif. Et les Bleus qui sont arrivés dans le New Jersey à la veille de leur 16e de finale de Coupe du Monde face à la Suède. Cette nuit, le Canada s'est qualifié pour la suite de la compétition.
11 morts, bilan d'un crash d'avion hier près de Nancy.
L'accident s'est produit en fin de matinée du côté de Tomblaine en Meurthe-et-Moselle. Tous les passagers de l'appareil ont été tués. Un pilote, 5 moniteurs et 5 personnes qui effectuaient leur baptême de parachute sous les yeux de leur famille. Écoutez ce témoin, il a assisté à la scène.
J'ai vu l'avion qui montait en l'air comme ça. Quand on l'a vu monter, il avait vraiment le nez en l'air. Et d'un coup, plus de bruit. Et d'un coup, il est parti sur la droite. Du coup, je vois, il y a un truc qui se passe pas bien. Je l'ai pas vu tomber, j'ai juste entendu le bruit. Puis, le temps de faire le tour, il y avait déjà un monsieur qui était sur place en train d'éteindre. Il m'a dit que, il arriverait pas à éteindre le feu avec le seul extincteur qu'il avait. Donc, j'étais en recherche un. On a essayé de, que l'avion prenne pas feu. Et puis, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, quoi. J'ai vu officiellement, tous les corps, sans vie par terre. On l'a vu tout de suite qu'ils étaient tous morts sur le coup, quoi.
Un drame et de nombreuses questions, de nombreuses zones d'ombre. On retrouve Maxime Clieruza du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin. On ne connaît pas à cette heure les causes du crash. Si la chute de l'appareil reste inexpliquée, Maxime, plusieurs pistes sont à l'étude.
Oui, s'agit-il d'une panne et notamment d'une panne moteur? Les témoins présents sur place hier racontaient un silence avant le crash de l'avion. L'appareil, un Pilatus, ne pouvait embarquer que 11 personnes. Il était donc rempli en totalité. Les passagers ont également pu se ranger d'un côté de l'appareil de sorte à causer un déséquilibre. Ou bien le pilote a-t-il tout simplement fait un malaise? Voici les questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Ils étaient 35 hier de la gendarmerie des transports aériens et ce jusque tard dans la nuit. L'objectif des enquêteurs hier a été de figer la scène de manière à ce que tout reste intact pour ensuite réaliser un certain nombre de prélèvements sur les débris de l'avion, tout d'abord sur les affaires des victimes ensuite et notamment leur téléphone portable, voir si des photos ou vidéos prises avant le crash pourraient aiguiller les enquêteurs. Enfin, la boîte noire, ce type d'avion n'en possède pas forcément, mais cela pourrait être une aide précieuse si les enquêteurs en retrouvent une. Des enquêteurs déjà de retour ce matin sous la pluie ici à Tomblaine qui continuent d'analyser la carcasse de l'appareil toujours présente sur les lieux du drame.
Maxime Clieruza du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin pour RMC. Il est 7h03. Et enfin, la canicule touche à sa fin. Une accalmie sur le front des températures, même si elles resteront élevées. Ce lundi, 5 départements du sud-est sont toujours en vigilance orange après 11 jours d'un épisode qui restera dans les mémoires de par son ampleur, sa précocité et son impact sanitaire avec des premiers chiffres loin d'être définitifs. Depuis mercredi dernier, Santé publique France a enregistré une surmortalité, environ 1000 décès de plus que la normale par rapport au mois précédent, des victimes souvent âgées et seules, Louise Salé.
Lundi dernier, comme tous les jours, Gabriel, 95 ans, s'est rendu sur la tombe de sa femme en Saône-et-Loire. Mais accablé par la chaleur, il s'est effondré dans l'allée du cimetière, raconte son frère Jean.
Quel que soit le temps, il allait au cimetière, quoi qu'on lui dise, en pleine canicule, à 13h15, on doit peu de choses près. Sa casquette était dans la voiture, donc il n'avait plus aucune précaution, donc il en est mort, évidemment.
Depuis vendredi, à Dijon, le docteur Rémi Bonin, de SOS Médecins, a rédigé 4 certificats de décès pour des personnes âgées de plus de 75 ans.
Je suis allé chez une personne âgée qui était isolée à son domicile. Les filles, nous sommes allés pour constater le décès, mais c'est des choses qui auraient pu être évitables. On arrive dans des endroits vraiment étouffants. Le truc, c'est vraiment la chaleur dans l'appartement.
Une surmortalité également constatée à l'hôpital par le docteur Hélène Pizu aux urgences de Montauban.
C'était des décès évitables. 23 ans après la canicule historique de 2003, les choses n'ont pas tant changé que ça. Il faut justement climatiser l'intégralité des EHPAD et également les services hospitaliers. Ça n'est pas fini.
En 2003, la canicule avait causé près de 15 000 décès.
Et de fortes chaleurs qui pourraient être de retour dès la semaine prochaine. Scénario probable, nous dit Météo France, qui a levé l'alerte aux orages ce matin. Plus de 244 000 éclairs ont frappé le sol hier avec quelques dégâts matériels en Île-de-France. Notamment, des perturbations sont toujours à prévoir sur le RERC et plusieurs lignes du Transilien. Les travaux devraient durer plusieurs jours. Dans le Nord, c'est le trafic des TER qui sera perturbé ce lundi du côté de Valenciennes. Sur les rails, toujours sans lien avec les orages, cet incendie près des voies hier à Valence qui a provoqué d'importants retards sur la ligne sud. Est. Plusieurs TGV ont été bloqués avec plus de 4 heures de retard pour certains. Philippine Boulet était aux côtés de voyageurs lors de leur arrivée à Paris-Gare de Lyon.
Sac de randonnée sur le dos, Héloïse pose enfin le pied à Paris après plus de 7 heures de voyage et 4 heures de retard.
Oh bah sur le moment, c'est fatigant, on en a marre.
De longues heures d'attente à bord de son train, sans information ni collation.
Il passe toujours avec de quoi boire, de quoi manger, si jamais il y a du retard. Mais ironie du sort, ils les ont donné 20 minutes avant l'arrivée. Des petits gâteaux, une petite bouteille d'eau. Bon, c'est l'intention qui compte, hein, mais...
De retour d'un voyage dans les Alpes, ce couple de Parisiens est resté bloqué 3 heures à Chambéry.
La gare était brûlante. La billetterie était fermée. Il y avait énormément de monde assis par terre. C'était la débandade.
Philippe et Véronique, eux, rentrent d'un week-end à Avignon. Leur train a été arrêté 3 longues heures sur les voies.
C'est sûr que 3 heures de plus, ça fatigue un petit peu quand même.
Et aujourd'hui, pas le choix pour eux.
On travaille.
Avec quelques heures de sommeil en moins.
L'incident a également causé d'importants retards sur plusieurs trains en gare de Marseille-Saint-Charles hier soir.
La course contre la montre au Venezuela pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres après le double séisme de la semaine dernière qui a déjà fait 1450 morts. Près de 50 000 personnes sont portées disparues selon les Nations Unies. Le Canada décroche son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0 hier soir, les Canadiens affronteront au tour suivant le vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Maroc la nuit prochaine, 3h du matin. Ce sera à vivre sur RMC. Avant ça, le Brésil affronte le Japon, 19h, suivi d'Allemagne-Paraguay. Le vainqueur de ce match nous intéresse puisqu'il affrontera en huitième de finale la France, on l'espère, ou la Suède, opposée demain soir à 23h, avec quelques changements à prévoir dans le 11 de départ, Jean-Louis Tour.
Oui, quand une équipe fonctionne bien comme la France depuis le début de la Coupe du Monde, les zones d'ombre sur la composition d'équipe sont rares. Didier Deschamps a les trois quarts de son 11 en tête, hormis peut-être deux postes situés sur le côté gauche. En défense, une alternance pourrait offrir une 60e titularisation à l'expérimenté Lucas Digne, au détriment de Théo Hernandez, parfois en difficulté, comme sur le pénalty concédé contre la Norvège. Un peu plus haut sur le terrain, l'hésitation concerne deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué. Si la logique d'alternance se poursuit, Barcola pourrait débuter cette rencontre, et sa vitesse contre la lourde défense suédoise constituerait un atout. Pour l'instant, et contrairement à certaines précédentes rencontres, Didier Deschamps n'a pas encore travaillé de mise en place tactique. Les doutes seront donc probablement levés tout à l'heure lors de l'entraînement de veille de match à 23h dans le New Jersey, où les Bleus sont arrivés il y a quelques heures.
Et on vous retrouvera, Jean-Louis Tour, au commentaire de ce match demain, 23h, match des 16e de finale de la Coupe du Monde France-Suède. Et puis Romain Grégoire portera le maillot tricolore sur la route du Tour. Le cycliste de 23 ans a remporté les championnats de France hier à la Tour du Pin en Isère. Un rêve pour le coureur de la Groupama FDJ United, déjà sacré deux fois en junior.
C'est juste incroyable, c'est franchement une explosion de bonheur. C'est un titre que j'ai tellement voulu, que j'ai tellement rêvé, j'ai tout mis en place pour aller chercher. C'est un truc de malade, se dire que je vais pouvoir vivre ça sur le Tour de France. Je pense que c'est une chance énorme. J'ai envie de dire, on va essayer de profiter tous ensemble parce que c'est une victoire d'équipe. C'est juste fou.
Et le Tour de France, ça commence samedi sur RMC. Départ de Barcelone, ville haute de ce Tour de France. De grand départ.